Chapitre 9. Donc, au moment qu'Iris était le plus résigné à ne jamais revoir le lord irlandais et à l'oublier, il s'offrit inopinément à sa vue, réveillant les premiers souvenirs de leur amour et de leurs aveux mutuels. La crainte de se trahir, l'intérêt que lui inspirait lord Harry, la retenait dissimulée derrière le rideau. « Tout va bien, Arasco ?» demanda le survenant en faisant allusion à Sir Arthur. « Parfaitement, milord. Monsieur Montjoie nous quittera demain. » « Compte-t-il revenir à la ferme ?»« Oui, malheureusement. »« Savez-vous s'il a fixé le jour de son départ pour son voyage ?»« Oui, milord, » répondit Miles en fouillant avec ardeur les profondeurs de ses poches. « Il a écrit un billet à Madame Lewson pour l'en informer et m'a recommandé de le lui remettre en allant au village. » « Mais que diable cet homme allait-il faire à cette heure nocturne ? Chercher en hâte un médicament pour l'un des chevaux malades de son maître ?» Tout en parlant, il finit par retrouver la petite note de Sir Arthur. Iris vit Miles passer à Lord Harry la lettre destinée à Madame Lewson. Celui-ci riposta d'un ton plaisant. « Ah ça, croyez-vous que j'ai le don de lire à tâtons ?» Sur ce, Miles détache de sa ceinture une petite lanterne sourde. Quand il fait nuit noire, certaines parties de la route sont loin d'offrir de la sécurité, fit-il observer en soulevant l'abat-jour à charnière de la lanterne. Alors le sauvage lord prend la lettre, l'ouvre et la parcourt sans se presser. « Ma bonne vieille, attendez-moi demain à dîner à 3 heures. Bien à vous. » Après une courte pause, Lord Harry reprit. « Y a-t-il des étrangers à Rasco ?»« Oui, 2 ouvriers qui travaillent au jardin. » Un nouveau silence suivit ce court dialogue. Puis Lord Harry murmure ces mots. « Comment puis-je le protéger ?» Évidemment, il soupçonnait les 2 inconnus, des espions sans doute, d'avoir déjà fait savoir à leurs affiliés l'heure à laquelle partirait Arthur Montjoie. Enfin, Miles se hasarde à dire « J'espère toutefois, milord, que vous ne m'en voulez pas. » « En voilà une bêtise. Voyons, me suis-je jamais fâché contre vous, au temps où j'étais assez riche pour vous avoir à mon service ?»« Ah, milord, vous étiez le meilleur des maîtres !» s'écria Miles avec conviction. « Aussi ne puis-je me résigner à vous voir exposer votre précieuse vie comme vous le faites. »« Ma précieuse vie ?» répéta Lord Harry d'un ton désinvolte. « C'est à celle de M. Montjoie que vous pensez en parlant ainsi. Il mérite assurément d'être sauvé, nous verrons bien. Mais quant à moi ?» Sur ce, il se mit à siffloter comme le seul moyen d'exprimer le peu de cas qu'il faisait de sa propre existence. « Milord, milord !» reprit Miles avec obstination. « Les invincibles n'ont plus autant confiance en vous. Si l'un de vous apercevait rôdant autour de la ferme de M. Montjoie, il vous tirerait un coup de fusil à bout portant, quitte à se demander après ça s'il a eu tort ou raison de vous envoyer ad patres. » Après avoir héroïquement sauvé Lord Harry du guet-apens de la borne milière, apprendre que votre vie ne tient plus qu'à un fil était une épreuve au-dessus des forces d'Iris. Une fois de plus, l'amour l'emporta sur la prudence. Donc, un instant encore, et Miss Henley eut joint ses instances à celles de Miles, si Lord Harry ne l'en eût inopinément empêché, en usant d'un procédé auquel elle était loin de s'attendre. « Éclairez-moi, dit-il, et je vais écrire un mot à M. Montjoie. » Il déchire alors la feuille blanche du billet adressé à Madame Lewson et trace à la hâte les lignes suivantes. « Je vous exhorte à changer l'heure fixée pour votre départ de Rasco et à ne communiquer à âme qui vive vos nouveaux plans. Ayez soin de sceller vous-même votre cheval. » Comme de juste, les mots étaient tracés d'une écriture déguisée. « Remettez ce billet à Montjoie en personne. S'il demande le nom de celui qui l'a écrit, n'hésitez pas à répondre que vous l'ignorez. D'autre part, si le destinataire s'avise que l'enveloppe a été ouverte et veut savoir par qui, « mentez encore. Bonsoir, Miles, et surtout, pas d'imprudence sur la route. » Le groom referme précipitamment la lanterne et Miles s'empresse alors de se servir du manche de son fouet pour frapper à la porte. « Une lettre de Monsieur Arthur » s'écrie-t-il. Madame Lewson prend la missive, l'examine à la lueur d'une chandelle, puis montrant au porteur l'enveloppe déchirée, elle dit « Quelqu'un l'a déjà lu, ça se voit ?» « Mais qui, ça ?» Fidèle à la consigne qu'il vient de recevoir, Maël se répond « Je l'ignore ». Sur ce, il pique des deux et décampe. Avant même que la porte fût refermée, Iris descend l'escalier, si bien que Madame Lewson s'empresse de lui exhiber la lettre d'Arthur et de dire « J'ai le plus grand désir de répondre à cette lettre et d'inviter M. Arthur Montjoie à se garer des hommes armés jusqu'aux dents. Il pourrait lui jouer un mauvais tour sur la route. Mais la difficulté, c'est de me faire comprendre. Ah, que vous seriez bonne de me venir en aide !» Iris accéda volontiers à ce désir. Une lettre de cette femme au cœur chaud, tendre et dévouée, ne pouvait que consolider l'effet produit par la lettre de Lord Harry à Arthur. Il fallait inférer de la sienne qu'il serait de retour à 3 heures. De plus, la question adressée au groom par Lord Harry « Y a-t-il des étrangers à Rasco ?» et sa réponse « Oui, 2 ouvriers qui travaillent au jardin » se présentèrent instantanément à l'esprit d'Iris. Elle en conclut, comme Lord Harry, que le mieux était de conseiller à Madame Lewson d'écrire à Arthur Montjoie en le conjurant de changer l'heure de son départ sans en rien laisser transpirer, bien entendu, et de quitter Rasco à la muette. Madame Lewson approuva en tout point le plan proposé par Iris et, sans perdre de temps, elle va s'enfermer dans le parloir afin d'y griffonner la missive en question. Elle pria même Miss Henley d'attendre pour remonter chez elle que la lettre fût terminée. Le fond de la pensée de la brave dame, c'était qu'Iris pût prendre connaissance de l'épître avant qu'elle fût adressée au destinataire. Restée seule dans le hall, Iris, la porte ouverte devant elle, les yeux levés vers le ciel, songeait. La vie de ces 2 êtres, qui lui inspiraient le plus vif intérêt, quoiqu'à des titres très différents, était également menacée. Pour l'instant, celui qui courait les dangers les plus réels, c'était Lord Harry, ce réprouvé, cet insurgé, ce révolté, dont le passé ne pouvait être facilement percé à jour, mais, disons-le à sa décharge, qui était prêt à risquer sa vie pour sauver celle de son ami. Au cas où Lord Harry voudrait courir les champs à l'aventure, en ce voisinage dangereux de la ferme, sans souci des assassins qui pouvaient être postés derrière les haies, Iris seule se targuait de posséder assez d'influence sur lui pour le décider à fuir ses parages très loin. Lorsqu'elle était venue rejoindre Madame Lewson dans le hall, c'était la réflexion à laquelle elle s'était livrée. L'instant d'après, sa résolution étant prise, elle sortit, déterminée à mettre son plan à exécution. Iris commença par faire le tour des bâtiments, poussant à travers l'obscurité, tantôt une pointe par-ci, tantôt une pointe par-là, tantôt enfin balbutiant le nom de Lord Harry. Pas une créature vivante ne parut. Aucun bruit de pas ne troubla le calme de la nuit. Évidemment, Lord Harry s'était éloigné de ces lieux redoutables. Ce fait inespéré mit au cœur de la jeune fille une douce sécurité et une grande joie. Tout en regagnant la maison, elle se représenta, chemin faisant, combien l'acte généreux qu'elle venait d'accomplir était téméraire et insensé. Ah, si Lord Harry et elle s'étaient rencontrés, aurait-elle eu la force de nier le tendre intérêt qu'il lui inspirait? N'aurait-il donc pu inférer de sa conduite qu'elle lui avait pardonné ses erreurs, ses égarements, ses vices, et qu'il était d'ores et déjà autorisé à lui rappeler leurs engagements et à demander sa main? Elle tremblait en songeant aux concessions qu'il eût pu lui arracher. En résumé, si le hasard les eût rapprochés, sa responsabilité n'y eût eu aucune part. Iris était rentrée à la ferme, et même elle avait eu le temps de relire sa lettre à Arthur, quand l'horloge sonna l'heure d'aller se coucher. Mais cette nuit-là, Madame Lewson et Miss Henley dormirent mal. Le lendemain, de grand matin, l'on chargea l'un des 2 journaliers restés fidèles à M. Montjoie d'aller à cheval porter la lettre de Madame Lewson et d'attendre la réponse. Y compris le temps nécessaire pour faire reposer sa bête, on calcula que cet homme serait de retour avant midi.